arrestation sur la personne par le père Philippe le 10 juillet 1989 à Saint-Jeudard.
Mais il y a un fond imposant, n'est-ce pas? Mais on vous met devant quand même, c'est pas pour vous encercler, parce que vous êtes pris de face et de dos. Alors faites attention. Mais c'est pour vous montrer que c'est pour vous en premier lieu qu'on fait la session. En second lieu, les frères et les sœurs peuvent assister, comme c'est un sujet qui est important et intéressant. Mais c'est pour vous en premier lieu. Alors d'abord, je vous dis un bonjour. Je vous connais sans vous connaître. C'est la même chose. C'est réciproque. C'est une session de philosophie, n'est-ce pas? Dans un cadre monastique. C'est pas contradictoire. Pour certains, c'est contradictoire. Mais pas pour ici. Pour certains, c'est contradictoire, je sais. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de la philosophie dans un cadre monastique. Je me souviens des réactions au début. C'était à Rimont. Il y a quelqu'un qui est parti au bout de 2 jours en disant « Mais c'est pas une session philosophique. Je suis ici dans un cadre monastique. » Alors je dis « Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. » Il suffit d'être suffisamment intelligent pour savoir distinguer. Distinguer ce que représente notre foi, le cadre monastique. Foi chrétienne. Et puis, notre intelligence. Notre intelligence n'est pas blessée par la foi. Notre intelligence, au contraire, est surélevée de l'intérieur. Mais elle garde toute sa liberté avec la foi. Si on a une intelligence suffisamment forte, c'est vrai, si l'intelligence est trop embryonnaire, on peut avoir l'impression d'être téléguidé. Ce qui peut arriver. Il y en a qui parlent de philosophie chrétienne. Alors est-ce que la philosophie chrétienne est encore philosophique? Est-ce qu'elle est encore chrétienne? Est-ce que c'est quelque chose de monstrueux de dire philosophie chrétienne ou est-ce que c'est quelque chose de normal? On parle de culture chrétienne, d'art chrétien, d'éthique chrétienne. Mais tous ces problèmes ça, sont quand même très importants. Et on vit pendant cette session, c'est pour ça que je dis ça tout de suite, on vit dans cette session ce problème, savoir si un chrétien peut être philosophe ou c'est contradictoire. C'est un problème qui se repose tout le temps. Est-ce qu'un musulman peut être philosophe? Est-ce qu'un bouddhiste peut être philosophe? Est-ce que la philosophie dépend de l'homme en premier lieu et relative à l'homme en premier lieu? Ou est-ce qu'elle est relative à un milieu donné? C'est quand même intéressant. Je vous demandais de régler ce petit problème tout de suite, j'aurais des réponses sans doute très différentes, ou tout simplement des points d'interrogation. Parce que il y a des positions très diverses, même à l'intérieur du thomisme. Ce qui montre que le problème est très délicat. Et en dehors, les positions sont les plus variées. C'est intéressant de se poser tout de suite le problème, vous voyez. Puisque faire une session philosophique ici, ça pose un problème. Peut-on philosopher en toute liberté dans un milieu monastique? La vie monastique continue pendant la session. Vous la suivrez plus ou moins, vous êtes très libre. On ne demande pas du tout de la suivre, cette vie monastique. Si vous pouvez la suivre, très bien. Ça vous mettra dans une disposition meilleure, je crois, pour assister aux cours et réfléchir. Mais la session comme telle s'organise indépendamment de la vie monastique, autant qu'on peut dire indépendamment, puisqu'il y a le cadre de vie monastique. Vous prendrez votre repas, je présume, avec nous, c'est-à-dire avec le couvent. Il y aura une lecture, c'est pas mauvais ça, même au point de vue philosophique, de garder le silence pendant le repas, c'est très reposant. Parce qu'on pourrait dire, bon, on va profiter du repas pour discuter. Vous pourrez discuter en dehors du repas. Mais le repas restera monastique. Et la nourriture frugale. Enfin, c'est normal. On fera peut-être des petits extras pour vous. C'est possible. N'est-ce pas ça? Je sais pas, j'ai pas vu le cuisinier pour savoir s'il fera des extras pour vous. Mais c'est possible qu'on fera quand même un tout petit peu attention. Mais repas frugal, c'est pas mauvais. Les pythagoriciens le demandaient. Donc vous voyez, il y a des courants philosophiques qui se font avec une certaine ascèse. Les stoïciens aussi demandaient une certaine ascèse. Les aristotéliciens également. Les platoniciens, il y avait le banquet. Alors je ne sais pas si on aura le banquet ici pour essayer de faire un repas philosophique. Si on pouvait, ce serait très intéressant. Dernier repas, on ferait un banquet platonicien, qui serait merveilleux, où on pourrait prendre un thème de réflexion. On prendrait le même thème, du reste. Et puis on terminerait par un banquet. Ça pourrait se faire. Ça peut se concevoir comme ça. Je ne crois pas qu'on pourra le faire cette année-ci. Peut-être une autre année. Une autre année, on pourrait faire ça. On pourrait faire que la session se termine par un banquet. Et vous savez que dans le banquet de Platon, tout le monde roule sous la table à cause du vin. Seul Socrate reste debout. Ce qui est significatif, qui montrait que la philosophie vous donne une force de résister même contre le nectar le plus puissant. N'est-ce pas ? C'est quand même quelque chose. Alors, nous distinguerons, et je tiens à le dire tout de suite, nous distinguerons très nettement, parce que j'en suis convaincu, qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Un chrétien n'est vraiment chrétien que s'il a fait la distinction entre sa foi et ses recherches intellectuelles. Tant qu'il n'a pas fait cette recherche, cette distinction, il n'est pas adulte dans sa vie humaine. Et c'est gênant. Il reste un enfant. On doit pouvoir distinguer assez vite les divers registres de nos recherches intellectuelles. Ce que Maritain appelait les degrés du savoir. Je ne peux pas encore vous donner l'édition nouvelle des degrés du savoir, revue et corrigée par la communauté Saint-Jean, mais ça se fait. Ça se fait. Parce que un travail auquel je tiens beaucoup. Il serait intéressant, du reste. Une année, peut-être, qu'on pourra prendre le livre et faire une session sur les degrés du savoir, revue et corrigée. Les degrés du savoir, c'est tout simplement réfléchir sur notre intelligence humaine à des registres différents. Et c'est très important, ça. Le registre de l'activité pratique. Il y a le registre de l'activité pratique. Quand vous allez prendre un pied de chemin de fer, c'est une connaissance pratique. Vous n'allez pas commencer par une réflexion philosophique en réfléchissant qu'est-ce que c'est qu'un voyage. Qu'est-ce que ça représente un pèlerinage? Qu'est-ce que représente ce pied? Exactement. Et puis se mettre à réfléchir là-dessus. Ou bien tout simplement, en voyant le brave monsieur qui est derrière La vitrine, est-ce que vous existez, monsieur? Ils vous renverraient en vous disant que vous êtes un imbécile, parce que non, vous demandez tout simplement billet de train pour Paris. Et vous ne réfléchissez même pas à ce que vous dites, tellement vous êtes habitué. Billet de train pour Lyon, billet de train pour demande. Connaissance pratique, quand vous allez acheter des légumes au marché, connaissance pratique. Et si vous êtes intelligent, vous n'allez pas vous faire rouler. Si vous êtes un peu payant, vous vous ferez rouler. On verra sur votre tête que vous n'y connaissez rien et on vous vendra des pêches 3 fois plus chères. Ce qui arrive de temps en temps, n'est-ce pas, ou des pommes 3 fois plus chères qu'elles ne représentent en réalité. Parce qu'on voit que pas très compétent, donc on peut le rouler. Connaissance pratique implique qu'on ait quand même une certaine connaissance et critique. Il y a la connaissance affective. Vous rencontrez un vieil ami, quelqu'un que vous aimez. Vous n'abordez pas du tout cette personne de la même manière que vous allez acheter au marché des légumes. Un autre abord, une autre rencontre. On rencontre une personne humaine. Tiens. Hein? Puisque le sujet est la personne, c'est intéressant. On rencontre une personne humaine. On s'adresse autrement quand on s'adresse à une personne que quand on s'adresse à un marchand. Le marchand est bien une personne, mais en tant qu'il est marchand, je ne sais pas s'il est une personne. Ça se posera le problème. Est-ce que le marchand de légumes est une personne? Ou est-ce que vous pouvez remplacer le marchand de légumes par un robot? Tout ce qu'on peut remplacer par un robot n'est pas une personne. C'est le service. On remplace des quantités de personnes dans des fonctions honorables par des robots. C'est le service. Et vous ne rencontrez plus qu'une machine. La connaissance affective n'a plus rien à faire devant une machine. À moins que vous aimiez tellement le progrès que vous êtes ému devant une machine, devant un ordinateur. Il y a des gens qui tombent amoureux d'un ordinateur. Je connais des gens qui sont amoureux d'un ordinateur et qui passent tout leur temps face à l'ordinateur, comme on passe tout son temps face à un ami. Normalement, la technique ne nous demande pas du tout une connaissance amoureuse, affective, connaissance pratique, peut-être très perfectionnée, mais pratique. Puis, vous avez fait des mathématiques, sûrement, un peu, vous les aimez ou vous les aimez pas, tant pis. Vous avez fait des mathématiques. Les mathématiques, c'est ni la connaissance pratique, ni la connaissance affective. C'est une connaissance tout à fait différente. Si le professeur de mathématiques, quand vous étiez jeune, était quelqu'un de très bien, ou la professeure de mathématiques, quelqu'un de très bien, vous avez aimé les mathématiques. Si au contraire, ce professeur de mathématiques était un homme sévère, sec comme ces mathématiques, vous les avez pas aimées. En tant que gosse. Et vous êtes resté devant les mathématiques en disant « Je comprends rien, c'est pas pour moi. » Très souvent, le facteur affectif, psychologiquement, on le sait très bien aujourd'hui. Mais ce gosse, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est tellement belle. Ce gosse qui revient, c'est la mère qui m'a raconté ça. Sa mère. Ce gosse qui, après la première leçon de mathématiques, revient en disant à sa mère, « Professeur de mathématiques, c'est un imbécile. » Je ne sais pas quel âge il avait, première leçon de mathématiques. Pourquoi? Il a dit « 1 et 1, 2. »« 1 et 1, 1. » Sa mère, qui aime son gosse et qui ne connaît pas le professeur de mathématiques, a dit, « Il doit être très intelligent. » Ça doit être très fort de dire un et un, et non pas deux. Il prend son bain, la mère lui lance une balle, puis une seconde balle. Tu vois, une balle, plus une balle, ça fait 2 balles. Ah oui, mais le professeur n'a pas dit une balle plus une balle. Il a dit un et un. Un et un, un. Et la mère ne sait plus quoi. Oui, on touche là un problème très profond, hein. Les intuitions de gosse. C'est très philosophique, souvent. Alors la mère va voir le professeur de mathématiques. Et le professeur de mathématiques dit tout de suite, « Ah, votre gosse, il comprend rien, c'est un imbécile. » Donc tous les deux se lancer en pleine tête d'être des imbéciles. Vous voyez, connaissance affective. Qui faisait un barrage entre le gosse et le maître. Et la mère a très bien compris à ce moment-là. Elle a essayé de raccommoder les deux. C'était pas très commode. Mais ça ne dit pas le reste. Et la mère me posait la question, est-ce qu'il avait raison de dire un et un, un? On pourra voir ça après. C'est une question philosophique que des philosophes se sont posées. C'est le père Garrigou-Lagrange. Je ne dis pas qu'il a raison, mais le père Garrigou-Lagrange dit un principe d'identité, un égale un. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à un si un est indivisible? À l'indivisible, vous n'ajoutez rien. Donc, un et un, un. C'est pas si bête. Le professeur, évidemment, ne se plaçait pas tout à fait sous ce niveau-là. C'était plus une balle, plus une balle. La quantité intervient, vous voyez. Mais ça, c'est un problème auquel on reviendra si on a le temps. Si on n'a pas, c'est très bien. Il y a des problèmes qu'on ne résout pas pour que vous reveniez une autre année. Vous voyez ? Pour que vous compreniez qu'on ne peut pas tout résoudre en une seule session et qu'il y a beaucoup d'autres problèmes philosophiques qui demeurent. Donc, connaissance mathématique, connaissance physique, connaissance biologique, connaissance philosophique. Et dans la connaissance philosophique, il y a 6 étages. 6 étages. Connaissance philosophique pratique. Connaissance de l'artiste. L'artiste a une connaissance propre. L'artiste. Connaissance affective, l'ami. Je peux faire la philosophie de la connaissance affective. Connaissance politique. Politique européenne. Jusqu'à une connaissance politique européenne. Et celle-là n'est ni affective, purement affective, ni purement artistique. Connaissance politique. Il y a une connaissance politique qu'on ne peut pas nier. Puis il y a des connaissances spéculatives, connaissance de la matière, connaissance du vivant, connaissance de l'être. Ah, c'est curieux. 6 étages. Vous voyez, hein, notez tous les étages de la connaissance. 6 étages de connaissance philosophique. C'est pas si mal. Je peux même être en 7e, connaissance critique. Je peux avoir une connaissance critique. Je peux même être en 8e, connaissance logique. Donc, 8 étages, les 8 béatitudes, les connaissances philosophiques, 8 états. Puis alors, au-dessus, connaissance de la foi. Pour le croyant. Vous voyez, je crois que c'est très important de comprendre ça. C'est pas si commode, hein. C'est un petit préambule. Un petit que. Alors comprenez que c'est des niveaux différents. Comparez ça à des lignes d'avion. Puisque nous avons cet exemple. Alors, ça vole plus ou moins haut. Qu'est-ce qui vole très très haut? ou le croyant, la foi. La foi est une lumière divine. Lumière qui vient de Dieu. Donc au-dessus de tout. Connaissance de sagesse divine. Puis, métaphysique. Ah, quand même, au point de vue humain, c'est celle qui va le plus haut. Mais je peux, comparativement à la foi et la métaphysique, il y a une naissance infinie. Puis alors, toute la philosophie, les 8 degrés, les sciences mathématiques, je les mets en dessous, voulez-vous, même s'il y a des matheux ici, je suis bien obligé de les mettre en dessous, quoiqu'elle est très noble. Vous voyez, vous pouvez faire un plan, c'est très bien, les degrés de connaissance. C'est important de comprendre que la connaissance de foi est au-dessus de tout. Elle est divine. Toutes les autres sont humaines. Même la métaphysique, c'est une connaissance humaine. Qu'on acquiert à partir de l'expérience. Toutes les connaissances, tous ces degrés viennent de l'expérience. Plus ou moins immédiate. Parce que les mathématiques, plus ou moins immédiates. Mais quand même, il y a toujours une référence derrière l'expérience. Ça, c'est la connaissance humaine. Elle part toujours d'expérience. Tandis que la connaissance de foi ne part pas d'expérience. La connaissance de foi, elle est au-dessus. Elle dépasse. Nous y reviendrons, hein, parce que vous avez vu sur le programme, le soir, on fera toujours un peu de théologie. En connexion avec nos recherches philosophiques. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas la foi, ça les intéressera quand même, hein, s'ils sont curieux. C'est intéressant de voir une connaissance particulière qu'on ne connaît pas. Et si vous êtes croyant, c'est bon de voir la différence entre la recherche humaine, la connaissance humaine, et la connaissance de foi. Bien distinguer les deux. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a distinction. Il y a une distinction entre les deux. Et une distinction profonde, puisqu'il y a quelque chose d'infini dans la foi. Il y a quelque chose d'infini dans la connaissance humaine. Je peux progresser indéfiniment dans ma connaissance humaine. Évidemment, il y a des conditions physiologiques qui sont là. Il y a un gagatisme qui fait qu'à partir de ce moment-là, je reviens à l'expérience du biberon. C'est ça, l'expérience du biberon. Le lait. Alors, on retourne au lait. Et tout a une saveur lactée, connaissance d'un retour en arrière. Venez. Tandis que si je suis en pleine santé, alors je sais, c'est quasi infini. Il y a un infini mathématique, il y a un infini métaphysique, il y a un infini de foi. C'est curieux, hein ? Il y a quelque chose de commun, l'infini, qui unit toutes ces connaissances. Vous voyez, et ce sera par l'infini que quelquefois les philosophes feront la confusion complète, la philosophie hegélienne. Par l'infini arrive à absorber la foi, et tout est absorbé par l'infini. Tandis que nous faisons, nous, des distinctions. L'infini humain n'est pas l'infini divin. L'infini divin est en acte. L'infini humain est en puissance. C'est toute la différence qui existe entre les deux. Mais il y a l'infini des deux côtés. C'est très important, parce que ça prouve que par là, il y a une possibilité quand même de passer de l'un à l'autre. C'est pas totalement hétérogène. Il y a une très grande diversité d'intelligibilité, de niveau d'intelligibilité, mais c'est toujours quand même l'homme. L'homme qui est croyant, l'homme qui est philosophe, l'homme qui est mathématicien, l'homme qui achète des légumes, c'est l'homme, le terrain d'atterrissage. Et c'est dans l'homme qu'on trouvera quelque chose d'infini au niveau de sa recherche philosophique, de sa recherche scientifique, et s'il est croyant. Donc, nous aurons à cœur de respecter cette distinction entre ces changements de vitesse, si j'ose dire, celle de la foi, celle de la philosophie, celle de l'expérience, et de temps en temps peut-être celle des mathématiques, par-dessus le marché. Premier, ça c'est la première chose très importante. Deuxièmement, nous allons attaquer un sujet particulièrement important, le problème de la personne. Le problème de la personne se situe comme le sommet de la connaissance philosophique. C'est un sommet. Et le problème de la personne va ouvrir à une nouvelle recherche qui est l'ultime sommet au-delà de la philosophie, le problème de l'existence d'un être premier que les traditions appellent Dieu. Vous voyez, la personne est l'horizon. Si j'ose dire, hein, toute ma connaissance humaine a un sommet. Le problème de la personne, c'est l'horizon. Et cet horizon va s'ouvrir vers le problème de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Dieu est au-delà de la philosophie, avec la personne est le sommet de la philosophie. Mais c'est les deux problèmes ultimes, la personne et Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'existence de l'être premier doit être abordé par le problème de la personne. Si on a le temps, on le verra au terme, ce qui est très important. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que le problème de la personne est au sommet. Donc d'une certaine manière, vous voyez, ça présuppose tout le reste. On touche là quelque chose d'ultime. Alors, c'est très mauvais de faire une session sur la personne, puisque c'est un sommet. Mais d'autre part, c'est ça qui aiguise notre intelligence. De voir pourquoi on fait de la philosophie. On fait de la philosophie pour découvrir ce qu'est la personne humaine. Je vous défie de savoir ce qu'est la personne humaine si vous ne faites pas de philosophie. Ça, c'est un très bon défi. Si vous ne faites pas de la philosophie, vous ne saurez jamais ce qu'est la personne humaine. Et si je fais de la philosophie, c'est pour découvrir la personne humaine. Et grâce à la personne humaine, je me pose le problème, existe-t-il une réalité supérieure à la personne humaine ? Oui, je me place là, à l'horizon, au sommet, pour... Vous savez, quand on est tout à fait au sommet d'une montagne, ce qui est intéressant, c'est de regarder le lever du soleil. Si je me place à ce sommet, je peux découvrir le lever du soleil. Et le lever du soleil, c'est comprendre qu'il existe un être premier. Je ne dis pas que, regardant la personne, je vais voir le lever du soleil qui est Dieu. Non. Mais je m'interroge. Je ne peux pas, en connaissant ce qu'est la personne humaine, ne pas me poser le problème, existe-t-il un être premier ? Et c'est déjà beaucoup de se poser la question, au plan philosophique, puisque des quantités de personnes aujourd'hui ne se la posent plus. Donc il y en a encore quelques-uns qui se la posent. Vous voyez, le croyant ne se pose pas la question, puisque ça lui est donné dans la foi. Mais les traditions religieuses, elles, parlent de Dieu. Est-ce que ces traditions religieuses sont-elles un mythe ou correspondent-elles à une réalité profonde ? Oui, il y a là quelque chose de très important à voir. Donc, nous nous poserons le problème de la personne humaine, parce que c'est un sommet. À titre de renseignement, je vous rappelle ce livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, L'Europe philosophe. Si on lit ce livre, c'est intéressant, c'est une petite synthèse, le ski de printemps sur la philosophie européenne. On est très frappé. Il ne le met pas très en lumière. Si je reprenais le livre, parce qu'un livre vous donne toujours envie d'écrire un autre livre. De reprendre ce livre en montrant la crête. Il ne le montre pas assez. C'est le problème de la personne. C'est le livre de Jean Brun, L'Europe philosophe. 25 siècles de pensée occidentale. C'est intéressant de voir ça. C'est édité chez Stock. Ça montre que le problème que nous allons faire ensemble, c'est le problème numéro 1 de la philosophie européenne, si j'ose dire ça. Est-ce que la philosophie est européenne ? Est-ce que la philosophie est américaine ? Est-ce que la philosophie est africaine ? Est-ce que la philosophie est australienne ? Est-ce que la philosophie est asiatique ? Remarquez qu'il ne dit pas philosophie européenne, il dit l'Europe philosophe. J'aime mieux ça. Parce que c'est l'Europe qui supporte, supponite, qui supporte cet adjectif philosophe. Et ce n'est pas la philosophie qui est enfermée dans l'Europe. C'est pas la même chose. Mais c'est intéressant à bien noter. Donc ce titre est exact. S'il avait mis philosophie européenne, ça m'aurait gêné. Tandis que l'Europe philosophe ne me gêne pas. Alors on devrait peut-être s'en servir pour dire le chrétien philosophe et non pas la philosophie chrétienne. Ce sont des petites subtilités très importantes. Parce que c'est à l'égard d'un langage qui n'est pas précis que petit à petit, on a des idées imprécises. Donc, nous regarderons ce problème qui est au cœur de toute la philosophie européenne, qui est au cœur de l'Europe philosophe. On le verra. Je vous le montrerai très rapidement dans une petite topique historique. Bon, alors je n'entre pas dedans, parce que il faut peut-être tout de suite organiser notre session. Alors, je vous dis tout de suite, nous aurons les cours, puis nous aurons ce qu'on appelle les carrefours, ce qu'on appelle les rencontres, qui se feront par trois groupes, très intelligents, moins intelligents, peu intelligent. Ce qu'il faut au point de vue philosophique. Le groupe très intelligent. Vous voyez, je blague en disant ça, hein, vous comprenez bien. Parce que je ne peux pas savoir d'avance. J'aurais dû demander sur votre fiche. Vous auriez dû dire très intelligent. Je suis du groupe très intelligent. Je suis du groupe moyennement intelligent. Et je suis du groupe peu intelligent. On ne peut pas dire ça. Hein. On est tous intelligents. Rassurez-vous. Moi, vous retiendrez ça de toute la session. On est tous intelligents. Mais on a des formes d'intelligence différentes. Ça, c'est sûr. On a une forme d'intelligence mathématique. On a une forme d'intelligence philosophique. On a une forme d'intelligence artistique. On a une forme d'intelligence affective. On a des formes d'intelligence différentes. On va former trois groupes qu'on va former juste après cette première rencontre dans la salle à côté. Les frères et les sœurs formeront leur groupe séparément, mais il y aura quand même un frère, peut-être deux frères, qui se chargeront de ces groupes. Moi, je me charge du cours. Et après ces groupes, on pourra réunir quelques questions. Des questions que vous avez envie qu'on traite. Des questions par rapport au cours et des questions qui vous intéressent. Vous voyez ? Donc le groupe, je dirais, le but de ces groupes, c'est que vous puissiez exprimer vous-même vos difficultés, vos interrogations. Philosophiquement, on n'avance que si on interroge. Vous ne pouvez pas le dire pendant le cours, parce que pendant le cours, si vous le dites, ça arrêtera tout. Je crois qu'il vaut mieux poser ces questions après. Mais il faut les noter pendant le cours. Quand vous écoutez un cours, il y a des questions qui se posent. Vous les notez tout de suite. Si vous ne les notez pas tout de suite, vous les oublierez. C'est subtil, hein, une question. Ça passe. Donc il faut les noter pendant le cours. Et vous les ressortez pendant les sessions, pendant les carrefours. Pendant les carrefours, vous ressortez vos questions. Et si votre question est particulièrement intéressante, celui qui se charge du carrefour la notera et me la communiquera. À ce moment-là, on pourra la traiter. Si votre question n'est pas ad rem, elle est peut-être très intelligente. Dites-vous toujours ça. Elle est peut-être très intelligente, mais elle n'est pas directement dans le sens de la session. À ce moment-là, on la refoulera. Elle ne passera pas la douane. On la refoule. Elle ne passe pas le mur du son. Ça ne veut pas dire qu'elle est bête. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le sens de la recherche de la session. Je dis ça pour vous tranquilliser. Parce que je tiens beaucoup à ce que vous puissiez exprimer vos questions. Si ce sont des questions trop personnelles, vous demandez de me voir. Alors on mettra une feuille à la porte, au parloir dans lequel je me tiens, et vous inscrirez votre nom et le numéro de votre chambre pour qu'on puisse vous chercher. Je me tiendrai à votre disposition normalement après le cours du matin et le soir, après-midi, pour qu'on puisse avoir un contact personnel. Et ceci, c'est très important. Si vous avez des questions, Si vous n'y comprenez rien, si les cours vous rasent profondément, venez me le dire. Pour que je puisse comprendre pourquoi vous n'entrez pas dedans. Et qu'on puisse arriver à faire un dégel et à entrer dedans. Ça, c'est important. C'est important d'essayer de faire que chacun d'entre vous, vous puissiez entrer pleinement et à fond dans le cours. Et vous puissiez prolonger ce cours par vos interrogations. Je crois que c'est suffisamment net. Dernière remarque. Le soir, on fera normalement le passage de la philosophie à la théologie. Le problème traité philosophiquement la journée sera traité dans la lumière de la foi le soir. C'est pour ça qu'on prend là un peu de théologie. Ceci parce que on est dans un climat monastique. Et c'est bon pour vous. J'en suis certain. Que vous soyez chrétien ou ne le soyez pas, c'est intéressant de voir quelle est la manière dont le théologien peut traiter certaines questions. Notre culture européenne, occidentale, notre culture ne peut pas se séparer de nos grands-pères. Et nos grands-pères étaient des théologiens. Vouloir se couper complètement de la théologie, c'est une abstraction qui n'est pas très intelligente. Parce que notre philosophie occidentale, elle est née à partir de la théologie. Et la théologie elle-même est née à partir de la philosophie grecque. Alors il faut remonter. Vous voyez ? On remonte historiquement. Hein ? On remonte. Nous sommes ici. Bon. Nous réfléchissons sur la personne. On va réfléchir sur la philosophie actuelle. Cette philosophie actuelle, pour bien la comprendre, nous fait remonter au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, pour bien le comprendre, nous fait remonter à la philosophie grecque. Donc il y a un, deux, trois. Trois moments. Toujours il faut faire ça. Si on veut être intelligent. La philosophie moderne est une philosophie qui est née en réaction contre la théologie du Moyen-Âge. Descartes, c'est une réaction contre les théologiens. Il ne faut pas l'oublier. Et de Descartes, il y a une continuité jusqu'à Hegel. Et Hegel montre l'éclatement de la philosophie. Dans lequel on est actuellement. On ne sait plus très bien. Ça va dans tous les sens. Et cette philosophie de Descartes, donc, dépend du Moyen-Âge. Et cette philosophie du Moyen-Âge dépend de la philosophie grecque. Cette théologie du Moyen-Âge. Alors, si vous voulez, nous allons tout de suite, ceux qui désirent être présents à ces carrefours, vous n'êtes pas obligés. Et ceux qui désirent être présents à ces carrefours, je vous encourage beaucoup d'y être. Parce qu'on apprend toujours quelque chose. Même si on est déjà très calé et très intelligent, c'est pas mauvais. Alors, on se retrouve tout de suite dans la salle à côté, salle Saint-Thomas. Puis on va déterminer les carrefours à ce moment-là.